Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et voici les titres de votre journal que vous présente Pierrot et la Meiji. L'attaque de la population hier jeudi à la prison centrale du territoire des Calais et au sud Kivu occasionne l'évasion de plus de 30 détenus, dont des grands bandits de chemin. L'administrateur des territoires des Calais, que nous suivrons dans ce journal, affirme que les services sont sur les traces des évadés et même des manifestants ayant attaqué la prison. La présence de la base temporaire des casques bleus de la MONUSCO, mais aussi les garanties sécuritaires annoncées par le ministre de la Défense permettent un retour timide de la population dans la région d'Épinga, dans la province du Nord Kivu, où la situation humanitaire reste préoccupante. Et l'invité de votre journal, c'est Albert Bahati, directeur de la campagne des rattrapages d'enregistrement des enfants à l'état civil dans les milieux scolaires des Kananga. Il nous parle du déroulement de cette activité prévue du 15 octobre au 31 décembre à travers une cinquantaine d'écoles de la ville. On les suivra avant la fin de ce journal. Il est 13h au sud Kivu, où la prison centrale du territoire des Calais s'est vidée de sa population depuis hier jeudi. Plus de 30 détenus, dont les bandits des grands chemins, se sont évadés au cours de l'attaque de cette maison carcérale par la population qui recherchait un présumé auteur de meurtre dans leur village. L'administrateur du territoire des Calais affirme que les services sont sur les traces des évadés et même des manifestants ayant attaqué la prison. Dédé Mwamba, administrateur du territoire des Calais, au micro de Emmanuel et la Mejoua Kabedi.
La population des cachets qui est venue, comme d'habitude, ils ont essayé de détruire la prison. En cherchant à détruire la prison, il y a eu l'évasion de plus ou moins 32 détenus qui étaient en prison. Les assassins, les bandits, consorts, y compris même les soupçonnés policiers, soi-disant qu'il a tué le jeune de cachet qui est là. Il était aussi en prison et il s'est évadé aussi. C'est-à-dire qu'on a dépêché un peu les éléments partout là pour essayer de récupérer un peu les gens qui se sont évadés là. Tout le monde est parti.
Donc à ce moment, la prison est vide.
La prison est vide. On a arrêté quelques personnes qui étaient ensemble avec eux. On est en train de rechercher également tous ceux qui ont mis en place ces plans-là pour être arrêtés. C'est le policier qui a tué un civil. Par après, il a été arrêté. Et la population est venue avec l'intention de tuer ces policiers-là. En détruisant la prison, l'objectif était de tuer, c'est-à-dire de rendre justice, tuer les policiers. Mais en détruisant la prison, même le policier aussi s'est évadé.
Parlons encore de l'évasion cette fois avec quelques détenus de la prison centrale de Matadi. C'était toujours hier jeudi au cours de l'audience au tribunal des grandes instances de Matadi. Pironsar Boniemé, président du tribunal des grandes instances de Matadi, qui confirme cette information à la Radio Kapi, a indiqué que ces prisonniers ont pu s'évader grâce à un plan machiavélique qu'ils avaient élaboré dans la salle des audiences alors qu'ils étaient détachés. D'après ces derniers, cet incident est arrivé à cause de l'insuffisance des policiers commis à la sécurité des détenus pendant l'audience. Les explications de Nana Plurichmambo.
Cette scène s'est déroulée aux environs des 16h en pleine audience au tribunal des grandes instances de Matadi. D'après Pironsar Boniemé, président de cette instance, après avoir comparu devant les juges pour association des malfaiteurs, viol et vol à main armée, ces prisonniers sont allés au fin fond de la salle des audiences pour manger. Or que la marmite qui était censée contenir de la nourriture contenait les sachets bien emballés d'eau pimentée. Alors que les audiences se poursuivaient, les prisonniers autour de la marmite contenant les sachets d'eau pimentée s'en sont pris à l'unique policier qui assurait leur surveillance en jetant sur ses yeux des sachets d'eau pimentée. Profitant de l'anéantissement du policier, 14 détenus sur 42 ont pu s'évader. À l'idée de les dissuader, les policiers ont tiré quelques coups d'effet en l'air. La police d'intervention rapide dont les sièges se trouvent à proximité de ce tribunal est intervenue. Grâce à son appui, 4 détenus parmi les évadés ont été récupérés. Le président du tribunal de grande instance de Matadi affirme par ailleurs que si ces détenus ont reçu leur coup, c'est à cause de l'insuffisance des policiers commis à la sécurité des détenus pendant pendant les audiences. Pironsar Bonyeme demande à cet effet aux responsables du commissariat urbain de la police civile de Matadi de revoir à la hausse le nombre de policiers commis à ce tribunal. De Matadi, Nana Pleurich Mambou, Radio Okapi.
Et parlons encore prison avec la Commission nationale des droits de l'homme, bureau des représentants provinciaux du Katanga, qui s'est dit préoccupé par la situation de la prison de la Kasapa à Lubumbashi. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, cette institution d'appui à la démocratie fait un bon nombre de recommandations, aussi bien à l'appareil judiciaire qu'à l'État congolais, pour humaniser les conditions des détenus. D'après elle, ces conditions se sont dégradées depuis le soulèvement du mois dernier des détenus qui ont incendié plusieurs bâtiments. On écoute Joseph Nkongolo, coordonnateur provincial de la CNDH au Katanga, au micro de Jean Gandou.
D'organiser une prise en charge sérieuse de femmes violées. La deuxième recommandation est celle de demander aux autorités judiciaires, de parquets civils et militaires, de ne plus continuer à envoyer les détenus à la prison parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Il y a des cachots au niveau du parquet, au niveau du commissariat de la police, jusqu'à ce que les bâtiments soient réfectionnés. Envoyer encore d'autres détenus à la prison essaierait encore accentuer négativement la situation parce que les nouveaux détenus qui arrivent sont devenus une proie pour les anciens. Si ce sont des femmes, elles sont menacées de viol. Si ce sont les hommes, ils sont soumis à de fortes tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. La dernière recommandation est celle de lancer un SOS à l'État congolais de prendre des mesures urgentes qui concernent notamment la réfection de dortoirs et aussi ravitaillement en vivres et en produits pharmaceutiques.
Comme je le disais au sommaire, au Nord Kivu, retour timide de la population dans la région des Pinga. Ce retour est motivé, selon la société civile locale, par la présence de la base temporaire des casques bleus de la MONUSCO, mais aussi par les garanties sécuritaires annoncées par le ministre de la Défense. C'était lors du passage d'Aimé Ngoï Moukena, la semaine dernière, dans une visite officielle à Pinga. Mais la situation humanitaire reste préoccupante. Le point avec Gabriel Wamenia.
Ces retours timides est surtout observé dans les trois localités qui forment la cité de Pinga. Il s'agit des villages Katanga, jadis quartier général de Mwisa Shimirai Guidon, Nkasa dans le groupement Iana et Boshimo dans le groupement de Bachali Mokoto en territoire de Masisi. Selon la société civile de Pinga, quelques habitants quittent déjà leur lieu de cachette et regagnent progressivement la cité. La même source est confirmée par les sources administratives à Pinga, précise que ces habitants disent être surtout réconforté par la présence de la MONUSCO qui a installé sa base à Pinga. Ce réconfort est aussi justifié par les assurances d'une paix durable faite par le ministre Aimé Ngoï Moukena ainsi que les patrouilles diurnes et nocturnes menées conjointement par les casques bleus indiens de la MONUSCO et les FRDC déployés dans la zone. D'autres parents ont décidé de retourner dans la cité pour la rentrée scolaire de leurs enfants en dépit du mauvais état dans lequel se trouvent les écoles et leurs habitants. Dans la foulée, ces habitants s'adonnent à la réfection par-ci par-là de leurs cases détruites pendant les affrontements. Mais la situation humanitaire reste préoccupante, ont indiqué nos sources. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Poursuivons ce journal en Ituri où la Grande-Bretagne s'est dit disposée à soutenir les efforts du gouvernement dans les processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire des ex-combattants. C'est ce qu'a déclaré hier jeudi l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC à l'issue d'une mission de travail de 24 heures dans la province de l'Ituri. Emily Maltam indique cependant que des discussions doivent être amorcées avec les autorités congolaises pour voir dans quel secteur apporter cet appui. C'est là en vue de contribuer à la pacification de cette province qui enregistre à ces jours plus d'1,6 million personnes déplacées, victimes des atrocités perpétrées par des groupes armés. Emily Maltam est au micro de Jean-Claude Loki.
Je crois que le plus important, c'est de discuter avec le gouvernement leur plan de DDRC, ça veut dire le DDR dans la communauté. Au niveau national, ils ont élaboré un peu plus un plan de soutenir cette vision de réintégrer les ex-combattants dans la communauté et pas dans l'armée. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir les forces armées professionnelles et pas les ex-combattants, parce que ça a aussi contribué à les causes du conflit. Donc nous allons discuter avec les autorités nationales internationale. Et je crois ensemble, il y a peut-être un appui que la Grande-Bretagne peut apporter au plan du gouvernement à résoudre ces conflits à long terme.
Appui financier, logistique.
Peut-être on peut toujours considérer les financements. Nous allons voir ce qui sont les besoins et ce que nous, en tant que Grande-Bretagne, peut apporter.
Retournons au Nord Kivu où le commandant de la brigade d'intervention de la MONUSCO s'est rendu hier jeudi à Kamango. Kamango, c'est une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni, dans la chefferie de Watalinga, en territoire de Beni. L'objectif était d'évaluer ensemble avec le commandant du régiment des FRDC dans la région la situation sécuritaire. L'amélioration de la qualité du travail fait par les troupes est l'une des recommandations du commandant de la force d'intervention de la MONUSCO à l'issue d'une parade qui a clôturé sa mission. Marc Marofimbo a fait partie de cette mission. Voici son reportage.
À son arrivée à Kamango, le général Jacob Monwabisi Yakupu a eu à échanger avec le commandant du régiment des FRDC basé à Kamango et le colonel Anafos Baburwa. Ils ont parlé de l'accessibilité de Mbao Kamango Semuliki Nobili ainsi que des localités jadis sous contrôle des groupes armés et aujourd'hui récupérées par les FRDC. Il a été aussi question de la sécurisation des points kilométriques où ont eu lieu les derniers incidents sécuritaires, notamment aux points kilométriques 36 et 48. Ils ont décidé de renforcer la sécurité par des patrouilles mixtes dans cette zone. Si les mécanismes des alertes sécuritaires posent encore problème, les commandants du contingent tanzanien dans la région a demandé à la population d'adresser toujours les informations sécuritaires à qui de droit pour que des solutions rapides soient trouvées. Le major Alain Chambo.
Les informations doivent être directement envoyées au chef, au FRDC et à nous. Ce sont là ceux qui s'occupent de la sécurité. Même pour les patrouilles, nous travaillons ensemble. Nous quittons ici pour Nobili, Kamango, pour Kinkiki, même jusqu'à Ndama. Nous patrouillons même Mukakati et toute la région de Semuliki. Voilà la raison même de cette accalmie car nous sommes ensemble.
Signalons qu'un retour progressif de la population qui a fui cette localité à cause de la sécurité est observé, mais les activités socio-économiques tournent encore au ralenti.
L'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les usagers de l'axe routier des Kalemie-Nyunzu, jadis en proie aux exactions du groupe Mai Mai dans la province du Tanganyika. Les transporteurs à moto qui empruntent cet axe dans le deux sens confirment la sécurité devenue assurée sur la voie. L'actif est à mettre sur le compte du travail des FRDC dans la zone. Du coup, le nombre des usagers a augmenté dans tout le deux sens. Le dernier témoin, c'est un inspecteur d'enseignement qui vient d'arriver ce jeudi à moto à Kalemie en passant par cet axe routier. Cet axe routier se trouve dans un état qui nécessite aujourd'hui une réhabilitation tout de même. Écoutons à ce sujet l'inspecteur de l'EPST Congo le 3, Albert Mokalaï, au micro de François-Xavier Mibé.
Ce que j'ai pu observer et constater sur plan sécuritaire, je me suis déplacé sans aucune peine. J'ai effectué le parcours de Nyunzu à Kalemie par moto et suis arrivé sans aucun incident et sans aucune tracasserie.
Est-ce qu'il y a des dépositions des FRDC?
Tout à fait. J'ai dû observer à des endroits des positions des militaires, mais qui sont là, paisiblement, et ont passé sans problème.
Il y en a presque combien au total de Nyunzu Academy?
Une dizaine au moins que j'ai observé, sans tracasserie. Dans tous les deux sens, la circulation, elle était toujours intense. Et les motards roulaient dans tous les sens, et même les usagers de véhicules.
Rendons-nous à présent dans la province du Kwilu où les habitants du village Matamba en territoire des Bagata ont incendié dans la nuit du mercredi à jeudi la maison du directeur de l'école catholique Matamba. Tawaba Mbo, qui est un des dirigeants de ce village, indique que ses chefs d'établissement scolaire ne veulent pas construire son école comme le font les autres directeurs. Pour sa part, Nkailela Dosité, l'incriminé, indique que les frais de fonctionnement qu'il reçoit ne lui permettent pas de construire l'école. Il promet de traduire en justice ceux qui ont incendié cette maison. Irène Boma pour les détails.
Selon les sources locales, la maison du directeur de l'EP Matamba située au village des mêmes noms dans les territoires de Bagata a été incendiée dans la nuit du mercredi 14 à jeudi 15 octobre par la population du dit village. Pour Tawa Bambo, un des dirigeants du village Matamba, l'auteur de cet incendie reste inconnu jusque-là. Cependant, il accuse ses chefs d'établissement scolaire de ne pas vouloir construire son école comme le font les autres.
un directeur, la population m'a
construit. Un directeur, la population a construit une maison pour vous. Mais pourquoi vous n'habitez pas la maison en question? C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Ses papas ne veulent pas arranger là où il vit. Les directeurs construisent leurs écoles, des bâtiments. Ils fournissent des efforts avec les paies qu'ils reçoivent. Mais lui, il ne veut pas arranger. Joué à ces propos, le directeur de cette école, Kayile Ladocité, réagit en ces termes.
La population qui est vraiment incivique, qui ne comprennent pas comment marchent les affaires, à partir du frais de fonctionnement qu'on donne, ils veulent que les directeurs au lieu de payer le fonctionnement de l'école construisent ce qu'ils disent. Je demanderai et je proposerai à priver les gens qui ont détruit la maison incendiée.
Notez que cet incendie n'a causé aucune perte car, selon les directeurs, ils passent nuit chez un enseignant et rien n'était dans la dite maison. Irène Mboma, Bandundouville Radio, Okapi.
Actualité internationale.
L'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour association des malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur le financement de sa campagne électorale de 2007, a annoncé vendredi 16 octobre le parquet national financier, confirmant une information de Mediapart. Dans ce dossier, M. Sarkozy a déjà été mis en examen en mars 2018 pour corruption, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illicite des campagnes électorales et placé sous contrôle judiciaire. Mais le PNF a signé fin janvier un réquisitoire supplétif élargissant les investigations à des faits d'association des malfaiteurs, ouvrant la voie à la mise en examen de nouveaux suspects et à une aggravation des poursuites contre les protagonistes déjà impliqués, dont M. Sarkozy.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de la campagne de rattrapage d'enregistrement des enfants à l'état civil dans les milieux scolaires de Kananga. Albert Bahati nous parle du déroulement de cette activité prévue du 15 octobre au 31 décembre à travers une cinquantaine d'écoles de la ville. Il précise également que ces projets visent entre autres à aider le gouvernement à avoir une idée sur les statistiques de sa population par la mise en œuvre des projets de développement. Albert Bahati s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Albert Bahati.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous coordonnez la campagne de rattrapage des enfants à l'état civil à Kananga. En quoi consiste cette activité?
C'est d'abord une campagne du gouvernement de la République dont l'objectif est de pouvoir enregistrer à l'état civil les enfants qui n'ont pas été déclarés dans les délais par leurs parents. Alors c'est une campagne qui est gratuite pour les parents. Vous savez que chaque parent doit déclarer son enfant dans les 90 jours qui suivent la naissance. Au-delà de ces délais, il doit passer par un jugement supplétif fait auprès du tribunal pour enfants. Et cela est coûteux. C'est ainsi que le gouvernement de la République a décidé qu'au travers de ce projet, de pouvoir offrir la possibilité aux parents de déclarer leurs enfants hors délai sans frais à payer.
À travers cette campagne, vous visez au total combien d'enfants?
C'est une campagne nationale qui vise au total 2 400 000 enfants sur toute l'étendue de la République avec autant d'actes de naissance. Mais pour la ville de Kananga, nous visons 100 000 enfants à enregistrer à l'état civil avec au moins 50 000 actes de naissance à délivrer aux enfants. Mais si les acteurs de terrain sont efficaces, nous pourrons obtenir les 100 000 actes à distribuer aux enfants dans la ville de Kananga.
À part la ville de Kananga, comptez-vous aussi aller à travers les territoires de la province du Kassai central?
La préoccupation, qui est même la préoccupation de son excellence monsieur le gouverneur, cette campagne est une campagne pilote. Donc nous avons fait le choix de nous arrêter d'abord au chef-lieu de province, qui offre un ensemble de facilités, mais dans une phase seconde qui arrivera en 2021 que nous appelons de tous nos voeux, elle sera maintenant universelle. Là nous irons à Tchimbolo et nous irons aussi dans les autres territoires qui composent la province.
Pour la ville de Kananga, cette campagne est financée à hauteur de combien et qui la finance?
La campagne elle est financée par la Banque mondiale au travers de la cellule de financement des États fragiles, le CFF. Donc c'est un don que le gouvernement a reçu et qu'il a décidé de mettre pour cette activité.
À hauteur de combien? Juste pour la ville de Kananga?
Non, je ne saurais vous dire ce chiffre globalement, mais sur toute l'étendue de la République, pour 2 400 000 enfants, ce projet est un projet de 15 millions de dollars.
Alors qui met ces projets en exécution?
Ce projet est mis en exécution par les acteurs étatiques eux-mêmes au travers les trois ministères principaux concernés, l'enseignement, la justice et puis l'intérieur, au travers de leur entité opérationnelle. C'est eux qui conduisent cette campagne. Mais ils sont assistés et accompagnés par le consortium qui est composé de plusieurs sociétés, notamment Civipol, l'UNFPA, Caritas Congo, Digitech, Idemia et puis Transtech. Nous sommes des assistants techniques. Nous sommes là pour apporter la méthodologie, équiper les agents étatiques et les accompagner au quotidien. Mais sinon, C'est un projet pour le gouvernement, par le gouvernement. Voilà.
Monsieur Bahati, si on vous demandait d'adresser un petit message, surtout aux parents de la ville de Kananga, que diriez-vous?
Alors, je dirais aux parents de la ville de Kananga que l'acte de naissance est un document important pour la vie de leur enfant. Même si aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce document, mais c'est un document crucial. Donc, allez-y profiter de cette campagne de rattrapage afin d'obtenir les actes de votre enfant gratuitement et un jour, il vous remerciera. N'oubliez pas, elle est gratuite, que personne ne vous exige quoi que ce soit à l'école ou ailleurs. D'ailleurs, vous les parents, vous irez seulement à l'école de vos enfants pour faire la demande et le directeur vous appellera quand l'acte est prêt. Pas un seul franc à dépenser parce que le gouvernement de la République a prévu que ce soit gratuit pour vous.
Les parents n'y remplissent que l'affiche à l'école. Alors, quelles sont les différentes étapes qui aboutissent à la délivrance de l'acte de naissance?
Nous avons fait une procédure où le parent il est impliqué qu'à l'école. Une fois à l'école, il remplit ce qu'on appelle la fiche requête qui est la demande. Cette fiche requête-là, via le projet, va être conduite au tribunal. Elle va être transformée en une ordonnance de notoriété. Et après, le projet reprend cette ordonnance de notoriété, l'amène au bureau d'état civil correspondant au lieu de résidence des demandeurs pour être transformé en acte de naissance. Après, le projet reprend encore cet acte de naissance-là au bureau de l'état civil, le renvoie dans les écoles où les demandes ont été faites. À partir de ce moment, les directeurs communiquent aux parents la date pour qu'ils passent retirer les actes de naissance de leurs enfants contre un accusé de réception.
Monsieur Albert Bahati, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal de la mi-journée en disant merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production. Alain Goy était à la mise en onde, Alain Irung à la coordination sous la supervision de Julien Nyamweni. Et la Radio Okapi vous dit merci parce que les infos c'est sur www.radiokapi.net. Quant à moi, Pierrot et la Meji, je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un point d'actualité.